aller plus vite. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein.
Ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Bidon réglable, en hauteur.
Les lettres affranchies à 2 centimes seront acheminées à Vélocipède.
Le nez dans le guidon, sur Radio B.
Quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au départ de la 56e étape du nez dans le guidon, votre rubrique consacrée au cyclisme. Découvrons aujourd'hui une activité nouvelle dont on entend de plus en plus parler, le pump track. Des communes s'y intéressent, construisent des pistes. Mais c'est quoi le pump track? Pour répondre à cette question, donnons la parole à la championne de France 2023 de la discipline et championne de l'Ain et d'Auvergne-Rhône-Alpes cette année, Claire Dupont, notre invitée. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors le pump track, on en parle beaucoup, de plus en plus de communes construisent des pistes, mais au fait, en quelques mots, c'est quoi le pump track?
Alors le pump track, c'est une piste en boucle constituée de bosses, de virages relevés. C'est un circuit fermé et lors d'une compétition, on passe seul sur la piste.
Ouais, on allait revenir dans un deuxième temps pour la compétition. Voilà. Mm-hmm. Donc, avant d'approfondir, là, j'ai lu quelque part que le pump track aurait été inventé par des pilotes de VTT descente australiens. C'est vrai ça ou c'est la légende?
Non, c'est vrai, le pump track, ça vient du VTT.
Et avant d'aborder le côté purement sportif, compétition, comprenons comment ça se passe. Plusieurs pistes existent dans l'Ain, pas mal de projets semblent en cours. Est-ce qu'il y a deux catégories? Est-ce qu'il y a piste de loisirs, aire de jeu et piste pour recevoir des compétitions?
Oui, alors les pistes qui peuvent recevoir des compétitions peuvent aussi convenir à du loisir. Donc c'est l'avantage. L'autre sens ne marche pas forcément par contre. Une piste de loisir ne peut pas forcément accueillir une compétition.
Voilà, parce que si on veut accueillir des compétitions officielles, il y a sans doute des critères à respecter. Par exemple, ma commune veut construire une piste de pump track. Pour réussir son projet, comment doit-elle s'y prendre? Quelle démarche?
L'important, c'est d'être bien accompagné. Il existe aujourd'hui très peu d'entreprises qui accompagnent vraiment sur les projets dès le début. Moi, j'ai monté un cabinet pour ça. L'important, dès le début, c'est de définir le projet. Par exemple, compétition ou pas compétition. Comme ça a été dit, une piste de compétition, il y a certaines règles. Par exemple, il faut qu'elle fasse 200 mètres linéaires. Une piste qui ne fait pas 200 mètres linéaires n'accueillera pas une compétition, par exemple.
D'accord, et c'est pas simple parce que oui, il faut tracer un parcours. Alors, il y a des bosses, il y a des virages relevés, il y a peut-être d'autres points particuliers, peut-être?
Alors, non, l'important, c'est quand même un bon enrobé. Effectivement, des bosses, des virages relevés. Dans le loisir, on n'est pas... On n'est pas très regardant. Après, si c'est de la compétition, effectivement, on va regarder un peu les angles des virages, on va regarder ce genre de choses.
Et pour les compétitions surtout, c'est peut-être ça le plus important aussi. Le sol, c'est quelle matière? Le sol, c'est du béton, c'est de la terre, c'est de l'asphalte, c'est...
C'est de l'enrobé.
Ah, c'est de l'enrobé systématiquement en compétition.
Oui, même en loisir. Hein. Tous les pump tracks que je connais sont tous en enrobé.
D'accord. Et donc, ouais, au niveau des entreprises pour faire les travaux, comme c'est un petit peu nouveau, c'est difficile de... Enfin, vous les encadrez, quoi, pour...
La concurrence est rude dans ce domaine, puisque un peu tout le monde se dit, tiens, et si je construisais des pump tracks, c'est la mode. Moi, je suis une entreprise, par exemple, qui fait des routes, donc je sais faire de l'enrobé. Tiens, et si je faisais du pump track? Non. Non, surtout pas. Ce qui est très important dans la construction d'un pump track, c'est vraiment la vision rider. C'est-à-dire que les entreprises à l'heure actuelle, majoritaires en France, qui font vraiment des beaux pump tracks, ont dans leurs équipes des riders qui ont la vision pilote, qui testent au fur et à mesure les pistes. Et ça, c'est non négligeable. C'est vraiment très, très important de faire appel à une entreprise qui a l'habitude de faire ça et surtout qui a des pilotes qualifiés.
Ouais, voilà, c'est ça, parce qu'il faut quand même des compétences. Hein. D'ailleurs, au niveau de la Fédération française de cyclisme, je crois que vous êtes trois personnes référentes techniques reconnues par la Fédé pour valider une piste, hein, pour attester de sa conformité, je crois.
Effectivement, il y a seulement trois personnes qui sont habilitées à homologuer des pistes aujourd'hui en France.
Voilà, et ça, c'est intéressant parce que donc, on en a deux dans notre région, hein, je crois.
Oui, oui, effectivement. Donc Thibaut Dupont, champion de France, double champion de France.
Voilà. De la discipline. Voilà, et puis toi, Claire, qui est trop modeste, mais qui a aussi un palmarès long comme le bras. Enfin, c'est vrai que si on veut valider, on a besoin de vous, quoi, pour l'organisateur. Ouais.
C'est vrai que c'est... Alors, pour homologuer, de toute façon, c'est obligatoire d'avoir une personne habilitée, mais c'est mieux, effectivement, de faire appel à des personnes qui connaissent la discipline lorsqu'on veut construire un pump track, si jamais, bien évidemment, on veut avoir un pump track, un minimum de compétition. Un pump track, par exemple, qui accueillera un championnat de l'Ain, c'est bien de faire appel à des pilotes, ne serait-ce que pour le conseil dès le début, de savoir exactement dans quoi on s'engage.
Voilà, donc il y a une différence assez nette avec une piste de BMX qui est beaucoup plus longue. Et au niveau du coût, c'est sans doute moins élevé pour le pump track.
Bien sûr, un pump track qui peut accueillir... Une compétition au niveau régional peut avoir un coût de 100 000 euros, à savoir que les pump tracks font partie du plan des équipements sportifs et peuvent être subventionnés à hauteur de, pour certains, 70% par l'Agence nationale du sport.
Ah voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant et beaucoup de communes s'y intéressent. Voilà, c'est... Et compétition, donc ça va attirer aussi. À propos de compétition... comment ça se passe, une compétition de pump track? Comment on pratique?
Alors, une compétition de pump track, c'est nous contre le chrono, entre guillemets. Donc, on part en haut d'une plateforme. Donc, on part à plat, un pied au sol, dans un rectangle qui fait la taille du vélo. On part donc, on se lance. Au bout de quelques mètres, bon, ça dépend des pistes, mais au bout d'une dizaine ou une vingtaine de mètres, on a une première cellule qui lance le chrono. On fait un tour complet et on repasse sur cette même cellule et elle arrête le chrono à notre passage. Et ouais. C'est donc avec le temps qu'on fait le classement.
Voilà, et pour nos auditeurs donc, qui ne connaissent pas forcément, donc, c'est, le vélo est un peu spécial, il ressemble au BMX en général, et on ne pédale pas.
On ne pédale pas. Alors,
voilà, c'est ça qu'on va expliquer, quoi, peut-être.
Mm-hmm. Après, ce n'est pas interdit. On a le droit de pédaler. C'est nouveau dans le règlement français, mais on a le droit de pédaler. En général, là où on prend le plus de vitesse, c'est en faisant l'acte de pomper. C'est pour ça que les pistes s'appellent des pump tracks, pistes de pompage, ça veut dire en français, en fait.
D'accord.
Et c'est un geste qui se fait entre... les bras, le corps qui épouse le vélo, qui épouse la bosse, voilà.
Ah d'accord, ça fait, c'est un peu, on peut presque comparer avec un sport de glisse alors.
C'est un sport de glisse.
Et puis donc comment ça, c'est systématiquement le pilote est seul en piste chrono donc. Est-ce qu'il y a d'autres formes de compétition, par exemple deux pilotes ensemble ou un de chaque côté de la piste ou des choses comme ça, non?
Oui, oui, tout
ça,
à fait.
Ça peut se faire.
Il existe plusieurs formats de compétition que j'ai très peu vu, mais qui existent. Il y a la version où on part tout seul et on est contre le chrono. Celle-là, c'est celle qui est la plus utilisée. Il y a une version où chaque pilote part d'un côté opposé de la piste.
D'accord.
Et donc, du coup, fait sa partie. Effectivement, on a cette option-là, la poursuite.
D'accord, c'est le principe de la poursuite sur piste dans un vélodrome, quoi.
Voilà, c'est un peu ça.
Et le déroulement d'une compétition, disons le jour d'une compétition, le pilote, il court combien de fois? Je veux dire, il tente le chrono, mais il y a des qualifications, il y a des finales, il y a des choses comme ça?
Oui, alors il y a plusieurs systèmes qui sont utilisés. Le système qui est le plus souvent utilisé, qu'on va utiliser en Coupe du Monde, c'est le matin, entre guillemets, on fait deux tours, le meilleur des deux temps sera gardé. Ensuite, on garde les, par exemple, les 16 premiers qui vont s'affronter. Le premier contre le 16e, donc chacun son tour et on garde le meilleur temps des deux.
D'accord.
Jusqu'à la finale.
Voilà, d'accord. Et est-ce qu'il y a un équipement spécial ? Ben, sans doute le casque est sans doute obligatoire, mais le pilote, il doit se protéger aussi, peut-être.
En compétition, effectivement, le casque est obligatoire. Le casque intégral est obligatoire. Les gants, manches longues, t-shirt, donc maillot, plutôt maillot BMX, hein, mais t-shirt manches longues, pantalon manches longues, basket, chaussures fermées. Ça c'est ce qui est obligatoire en compétition. Les protections genoux, tibia et coudes sont conseillées, mais pas obligatoires. Cependant, à l'heure actuelle, donc ça c'est pour la partie compétition, je voudrais faire un petit rappel. C'est pas parce que c'est pas obligatoire en dehors des compétitions qu'il faut pas le faire. On voit beaucoup, beaucoup trop d'enfants, que ce soit en vélo, en skate, en roller, n'importe, sur des pump tracks, qui n'ont pas les protections. Et il faut pas oublier que c'est de l'asphalte, enfin c'est de l'asphalte, c'est de l'enrobé, mais c'est du béton en fait.
Oui, ça fait mal,
ça
quoi.
Peut faire très mal, oui.
Voilà, donc encore une question, Claire. Donc justement, à propos de jeunesse, d'enfants, à qui, quelqu'un qui veut s'adresser, qui veut essayer, qui veut s'adresser pour découvrir le pump track, donc rejoindre un club aussi, c'est parti dans l'Ain.
Et oui, dans l'Ain, nous sommes licenciés avec mon frère au Cycling Team. Donc c'est un nouveau club qui accueille les nouvelles disciplines, dont le pump track. Nous, après, on a une association où on organise des stages, etc., qui s'appelle Pump and Race. Donc si quelqu'un veut essayer le pump track, nous organisons des stages à quasiment toutes les vacances scolaires.
Ah voilà, c'est intéressant. Donc on va passer par Cycling Team 01. Donc on peut trouver les coordonnées. Et puis avec Internet, on les aura. Voilà. Mm-hmm. Eh bien, il est temps de conclure. Mais avant de nous séparer, Claire, quelque chose à ajouter que nous n'aurions pas abordé ?
Non, écoutez, on a bien fait le tour, on a bien rappelé l'utilité des protections et aussi de faire appel à des personnes compétentes pour les pump tracks. Je pense que c'est vraiment les deux choses les plus importantes à aborder.
Voilà, eh bien merci Claire Dupont, sportive de haut niveau et dirigeante bien investie au service du cyclisme, en particulier du pump track, pour ces explications passionnantes qui vont donner l'envie, je crois, à pas mal de jeunes et moins jeunes de s'y essayer. Bonne journée Claire, à bientôt.
Merci, au revoir.
Radio B.
L'actualité, c'est aussi une fin d'année particulière. Une Olympiade s'achève, ce qui signifie que c'est le moment de renouveler les instances sportives à tous les niveaux et dans tous les sports. À l'échelon départemental, c'est à l'unanimité que le conseil d'administration a été élu avec trois nouveaux membres. Il est vrai que le dynamisme du président Patrick Vacle est une chance pour le territoire, d'autant plus que le comité de l'Ain a l'avantage de pouvoir s'appuyer sur deux salariés de grande qualité. Quant à l'étage au-dessus, Auvergne-Rhône-Alpes, qu'en sera-t-il ? Puissent les licenciés de base être entendus, en particulier ceux qui souffrent de plus en plus au fil des années pour organiser et financer des courses ? Il n'y a pas d'argent magique. Et plus haut encore, ça ne doit pas être simple avec les contraintes du ministère. Quand on voit les tocards et les tocardes qui se succèdent à un rythme effréné au poste de ministre des Sports, plein soutien au président de notre fédération nationale pour qu'il poursuive son solide investissement.
Radio B. Radio B.
Agenda, l'agenda de décembre est court, mais de grande qualité. Ce week-end, samedi 7 et dimanche 8 décembre, l'Union cycliste Gessienne accueille le championnat Auvergne-Rhône-Alpes de cyclocross. Au plan d'août, Cessy, un site remarquable. Première course samedi dès 11h30, access puis relais par équipe de 4 et enfin U15. Et on enchaîne dimanche à partir de 10h avec 6 épreuves tout au long de la journée, de U17 à élite, hommes et femmes. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ainsi s'achève votre rendez-vous mensuel. Merci de nous avoir suivis. Belle et agréable journée à l'écoute de Radio B. Les bonnes ondes.
Quand
quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.